Alors, on va continuer ce soir sur le sur ce qu'on pourrait appeler l'apparition d'un discours. Pour autant que, et là on est au cœur du transfert, pour autant que cette apparition est en fait une effraction. Ce que l'on a essayé de suivre la dernière fois, c'est de faire se rencontrer avec tout ce que ça nécessite de fiction, d'un côté un être parlant qui, à la suite d'une expérience, élabore quelque chose, Condorcet, et puis de l'autre côté, un analyste, Freud, aux prises avec quelque chose qui est justement le recouvrement de l'apparition de cette effraction du réel. Fin 1892 avec Lucière. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est poursuivre dans cette perspective. On essaiera de la même façon de prendre parce qu'on est dans un séminaire de psychanalyse, donc de prendre un moment de où Freud est analyste d'un de ses analysants, le Mora, d'un côté, et puis de l'autre côté, je voudrais essayer d'interroger, continuer à interroger cette temporalité particulière qui peut survenir, et on pourrait dire que à ce moment-là, et c'est là qu'on pourrait se rapprocher de Condorcet, Condorcet, bien sûr, tel qu'on peut le recevoir. Alors, on pourrait se rapprocher de Condorcet pour autant que Lacan nous aide dans la mesure où, vous savez que Lacan a posé la question de la transmission comme étant liée à une formulation mathématique, formalisation mathématique. Donc, ça va nous permettre de nous approcher un peu d'un certain nombre d'éléments qui sont souvent présentés de façon théorique, notamment la question de l'objet petit a. Dans le discours, tel qu'il apparaît. Alors, je vais revenir un peu sur, on en parlait tout de suite, sur les Lumières, et notamment sur la singularité de Condorcet par rapport aux Lumières. Pourquoi ? Parce que ce qu'il élabore, lui, c'est quelque chose, dans le cadre de ce séminaire, qui s'intitule « Qu'est-ce que le savoir ?» en référence à la jouissance, à l'écrit, à la voix. Ce qui est important, c'est à la fois de dire un mot du savoir par lequel Condorcet va s'inscrire dans la communauté scientifique et Académie des sciences, et ensuite dans l'Académie française, donc comme philosophe, savant, et ensuite, dans quelle mesure il va se risquer à la dimension politique. Et, alors, évidemment, les politiques vont dire qu'il s'est cassé la figure, qu'il a échoué. On peut penser que c'est pas si évident que ça, justement, et je le disais la dernière fois de façon un peu comique, en se disant que il est un des seuls que la guillotine n'a pas voulu accepter. Donc, prendre les choses comme ça, ça pose effectivement la question, et on essaiera de dire un mot de cette position particulière dans laquelle il a été retrouvé mort, qui nous interroge de toute façon, un peu comme un tableau peut nous interroger, non pas uniquement sur le plan de toute la phénoménologie qui peut être dite à partir de ce qui lui est arrivé. qui n'est pas faux, mais qui peut justement servir de on va dire comme ça, de mousse en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui est élaboré progressivement? C'est le fait que dans cette deuxième partie du 18e, arrive effectivement l'idée que il serait possible qu'un jour un événement extraordinaire ait lieu. C'est une sorte d'espoir, à savoir que quelque chose puisse être accessible au plus grand nombre, la dimension du savoir, et que quand ça aurait lieu, si ça peut avoir lieu, ce serait quelque chose qui serait de l'ordre d'un bienfait pour l'humanité. Or, c'est ce que dit Condorcet, ce que d'autres, je pense, disent aussi, un jour, effectivement, tout ce qui avait été considéré comme possibilité devient réalisé parce qu'il n'y a plus du tout de loi antérieure qui fonctionne et il suffit qu'il y ait une assemblée pour qu'on décide, que telle ou telle chose ait lieu. Et c'est dans ce cadre-là, je vais un peu vite, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le mouvement qui guide ce philosophe, à savoir que il est entré, on pourrait dire, dès l'âge de 20 ans dans la dimension du champ du savoir par le biais des mathématiques, et on peut se demander effectivement ce qui l'anime quand il passe des heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures dans sa chambre à étudier les mathématiques. Alors après, bien sûr, ce qui va se passer, c'est que entrant dans cette dimension des mathématiques, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il va trouver dans ce champ-là. Puisque ce qui va nous apporter, c'est les effets d'une certaine rencontre, et ces effets, c'est le fait qu'il est possible, que chaque être parlant puisse accéder au savoir, ce qui est quelque chose de effectivement d'absolument nouveau, puisque jusque-là, même pour Voltaire, même pour les encyclopédistes, c'était pas du tout comme ça. Le savoir pouvait être distribué par des précepteurs, les despotes éclairés pouvaient permettre que du savoir puisse un peu diffuser, mais ça restait quand même très fermé, très limité. Et la rencontre de Condorcet avec le savoir va l'amener très tôt, vers les années 1775. On trouve ça notamment en 1782 dans son discours, dans le discours qu'il fait lorsqu'il est admis à l'Académie française, où il élabore déjà les bases de ce qu'il va appeler l'instruction. C'est-à-dire que ceux qui savent auront à apporter à tous les autres, et ça c'est quelque chose de nouveau, qui sont ignorants notamment, des éléments de savoir, ces éléments de savoir pouvant permettre, à partir de ce moment-là, à partir du moment où chacun va pouvoir trouver les éléments qu'il peut, lui, recevoir, à partir de ce savoir qui est un savoir qui est ordonné, à partir de cet ordre qui fonctionne au niveau du savoir, qui est cette notion de savoir élémentaire, ces éléments-là pouvant être appris par l'ensemble des humains, l'objectif qui apparaît très vite, c'est le fait que, n'étant plus ignorants, ils vont pouvoir, eux, porter un jugement, une appréciation sur le savoir qui leur est proposé. et ceci dans une universalité. Alors que jusque-là, effectivement, le savoir était, il va le dire à sa façon, Condorcet était confisqué par les clercs et par les nobles, de telle façon que ça restait dans ce milieu-là. Et donc, le savoir qu'il va rencontrer et dont il va faire part, c'est bien sûr ce savoir tel qu'il s'élabore au niveau, par le mouvement des Lumières, par le mouvement des encyclopédistes, mais il y a quelque chose en plus, c'est cette dimension du savoir pour l'ensemble, l'ensemble, c'est pour ça que la dimension de la presse publique va apparaître, de la chose publique va apparaître, ce savoir n'est pas réservé à quelques-uns, il doit aller à l'ensemble, on pourrait dire au public, hein, à l'ensemble des personnes qui sont français. Et la France étant en quelque sorte un modèle, est présentée là quelque chose qui va pouvoir rayonner en Europe et au-delà. Donc c'est ça l'idée de Condorcet, c'est quelque chose comme ça qu'il élabore, et tout ceci vient, et c'est intéressant pour nous, vient de vraisemblablement d'une fréquentation des mathématiques. Il ne s'agit évidemment pas d'enseigner des mathématiques en tant que telles, mais il s'agit qu'il a trouvé dans les mathématiques ce qu'après il va élaborer, la raison, une raison, ratio, une raison qui va être prise après. Et c'est étrange de remarquer qu'en 1957, Lacan, vous savez, quand il fait cet article, l'instance de la lettre, l'insistance de la lettre, point de suspension, ou la raison depuis Freud. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mot, ce signifiant, si on le considère comme tel, qu'on peut retrouver quand même dans des champs qui sont sans doute, avec Condorcet, pas si éloignés que ça, puisque la question du transfert, la question qui se pose dans le transfert, c'est effectivement la question du savoir. Donc, savoir ordonné, on est dans le XVIIIe siècle, et savoir, deuxième caractéristique, c'est que ce savoir se transmet par la lettre. C'est ça les mathématiques. Et on retrouve les éléments, effectivement, qui vont guider d'une certaine façon Lacan. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ces deux termes, un savoir ordonné, et d'autre part, alors qu'est-ce que ça veut dire, savoir ordonné, et d'autre part, un savoir qui se transmet littéralement, par la lettre, quelque chose qui déjà, on pourrait dire que Condorcet, sans le savoir, et bien sûr que Condorcet est dans un registre du savoir qui est celui de la connaissance, à ce moment-là, on parle que de connaissance, mais on peut penser que la dimension de l'inconscient, sauf si on pense que l'inconscient c'est du non-conscient, ça c'est la première version, on va dire, freudienne, mais si l'inconscient, et c'est ce quelque chose, ce réel insaisissable, qui à un certain moment peut articuler une dialectique particulière entre l'autre et le sujet, si c'est ça l'inconscient, on pourrait presque dire que le rapport de Condorcet au savoir est dans cette perspective-là. Et c'est un peu ce que je voudrais faire un peu causer ce soir, cette dimension-là, et ensuite on pourra un peu parler de ce que ça peut produire. Parce que si on considère ce qui se passe dans le transfert, et là je vais reprendre Freud, en 1907, vous savez qu'en 1907, Freud, le 1er octobre, commence l'analyse d'Ernst Lerz, alias l'homo rat, qui vient le trouver pour des troubles divers, notamment des mécanismes obsessionnels, à savoir qu'il est obsédé par la pensée qu'il arrive quelque chose de désagréable, voire quelque chose de douloureux, à deux personnes, son père et à la dame. Et Freud note bien, notamment dans les notes qu'on a, on a des notes qui correspondent aux trois premiers mois et à 20 jours, c'est-à-dire à peu près jusqu'au 20 janvier, dans ce qu'on appelle le journal d'une analyse, où Freud tous les soirs notait ce qui était dit dans cette... enfin, pas tous les soirs, chaque fois qu'il y avait une séance. Et il note bien que cette dame, c'est pas n'importe qui, c'est pas une femme, c'est une dame vénérée. Alors, je ne vais pas reprendre toute l'analyse, mais ce que je voudrais, c'est un peu comme avec Lucie hier, la dernière fois, c'est venir avec vous faire apparaître cette effraction du réel à un moment, et la façon dont cette effraction du réel est en quelque sorte justement recouverte. Et comment elle peut en quelque sorte s'entendre, puisque c'est ça un peu le thème du séminaire, comment ça s'entend, et qu'est-ce qui retient les corps invisiblement, puisque c'est aussi ça la question qu'on peut se poser. Alors, vous connaissez ce qui se déroule. Je prends le moment où, qui n'est d'ailleurs pas dans les 3 premiers mois et 20 jours, donc il faut prendre ça dans les 5 psychanalyses, le moment où Freud, comme avec Lucière, il a construit quelque chose sur le plan de l'histoire. Et ce qu'il a construit, c'est, il a fait le rapprochement, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il se rend compte que c'est de lui dont il s'agit, puisque vous savez que derrière tout ça, il y a sa propre histoire à lui. Il fait le rapprochement entre ce qui est arrivé au père et ce qui est arrivé donc à celui qui vient lui parler, qui est donc son fils, à savoir que son père, qui est mort en 1907, il est mort quand il avait 11 ans, donc ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il est mort. Le père de l'Homora a été dans la situation suivante. Il a dû refuser d'épouser une femme pauvre et belle qu'il aimait, et il a épousé une femme qui est donc la mère de l'Homora, qui lui a apporté la fortune, la célébrité et une certaine prestance sociale. Or, une année avant qu'il termine ses études, la mère de l'Homora propose à l'Homora d'épouser une jeune fille qui va lui assurer à lui aussi une reconnaissance sociale, des perspectives professionnelles, et en fait l'Homora aime justement la dame en question. Donc Freud fait très rapidement le rapprochement, c'est-à-dire qu'il fait le rapprochement entre ce qui est arrivé au père, ce qui est arrivé à Ernst Lerz, et il construit, on peut penser, on imagine comme ça, que surtout qu'il travaille, hein, c'est important qu'il travaillait le soir sur cette analyse, même si on peut supposer qu'après il a continué à travailler. On sait qu'il était très lié à ce jeune homme, en témoigne la note qu'il va mettre après lorsqu'il saura qu'il est mort à la guerre de 14-18. Hein, il va parler d'un homme courageux qui, et comme lui, beaucoup d'autres sont morts à la guerre de 14-18. Donc, je reviens au fait que dans le transfert, à un moment, apparaît pour Freud cette évidence que ce qui se rejoue avec Ernst Lerz, avec le fils, est du même ordre que ce qui s'est joué avec le père, et qu'en fait, s'il acceptait, lui, de ne pas épouser cette fille que lui présente sa mère, en fait, il désobéirait au père, et ça, c'est pas possible, il peut pas désobéir au père qui, en plus, est mort. Donc, il est obligé, il y a ce fameux conflit dont parle Freud, un conflit qui est préconscient, et Freud va arriver à lui transmettre cette interprétation. Il va lui dire. Or, dans le même moment, alors c'est ça qui nous intéresse, dans le même moment, Ernst Lerz n'accepte pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter cette interprétation-là. Il y a donc des échanges sans doute assez vigoureux dans le transfert, et l'apparition de mécanismes quelque chose qui a à voir avec justement le savoir, peut-être quelque chose qui a à voir avec la haine, enfin quelque chose qui se développe. Et un jour, à la fin d'une séance, alors qu'il se retrouve dans l'escalier, Ernst Lerz voit une jeune fille et il pense immédiatement, il n'y a aucun doute, c'est la fille de Freud. Et voyant cette fille, il se met à imaginer que, effectivement, c'est exactement ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire que Freud veut qu'il épouse sa fille, c'est pour ça qu'il accepte l'agressivité qu'il adresse à Freud, pour lui il n'y a aucun doute, Et dans la nuit, ou dans la nuit qui va suivre, ou dans les jours qui vont suivre, il fait un rêve, et c'est là que je voudrais en arriver. Il fait un rêve qui nous intéresse beaucoup parce que est posée la question du savoir, et la question du savoir de l'autre, la question de l'objet, la question de tout ce qu'on voudra dans ce rêve-là, si on en parle à partir de ce que Lacan nous propose comme élément, justement comme savoir élémentaire, qui sont en jeu dans le discours. Alors le rêve est le suivant. Ernlers rêve que la fille de Freud, qui est dans le rêve, est bien présente, et que à la place de ses yeux, elle a des crottes. Et Freud dit dans l'observation, pour celui qui connaît bien l'interprétation des rêves, il n'y a aucun doute, hein, ça signifie, c'est très simple, hein, il veut l'épouser, non pas pour ses beaux yeux, mais pour son argent. C'est-à-dire qu'il interprète selon un savoir bien connu, qui est le symbolisme anal, hein, c'est les crottes, ça renvoie au don, à l'argent, et donc il en déduit l'interprétation. Alors, on ne sait pas, Freud ne dit pas quel effet ça a produit. Ce qui est intéressant, c'est que dans le fameux discours de Rome de 53, à un moment, Lacan parle de la position de l'analyse dans le transfert et de l'importance de ne pas objectiver, au sens de la relation d'objet, ce qui se passe dans le transfert, et il reprend ce rêve. Et bon, pourquoi pas, on peut tout à fait penser ça, le dire, etc. Mais il dit que ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est, alors pensez toujours à cette dimension des éléments du savoir, savoir élémentaire. Ce qui est en jeu, on pourrait dire que c'est un autre élément, à savoir que ce qui se joue à ce moment-là, le savoir qui est supposé, qui est à ce moment-là, c'est le fait que l'analysant, Lers, offre à Freud une fille imaginaire. Et on change, on n'est déjà pas dans la fille de Freud, c'est la fille de Freud, mais pas au sens où on l'entendait avant. Une fille imaginaire. La perspective, c'est qu'il introduit par ce biais-là une subjectivation. Et comment cette subjectivation va s'introduire? Par le fait que il attend de lui en retour. Voilà le transfert, voilà la dimension, le retournement, l'insistance. Il attend de lui en retour une alliance, qui n'est pas du tout l'alliance où il s'agit de convaincre quelqu'un ou de vaincre. L'alliance, une alliance, alors, dont le visage, je le cite à peu près de mémoire, dans ce rêve, dit-il, qui est un rêve clé, c'est même sans doute ce qui a été raté dans l'analyse, c'est pour ça que c'est important. Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il est mort à la guerre de 14-18? C'est pas impossible. Voilà, bon, disons les choses comme ça. Dans ce rêve clé, voilà pourquoi je propose ça. Donc, alors, une alliance dont le visage, donc il attend, hein, l'analysant, Ernst, attend, en donnant à Freud cette fille imaginaire, ce support imaginaire, ce qu'il attend, c'est surtout pas une réponse imaginaire, mais une alliance dont le visage est celui de la mort qui le regarde de ses yeux de bitume. Ça change tout. D'une part, c'est très poétique, on ne sait pas trop, mais on se rend bien compte que là, alors bien sûr, dans cette affaire-là, Freud ne sait pas vraiment que, à ce moment-là, qu'il ne sait pas qui c'est, qu'à 16 ans, il est tombé amoureux d'une certaine Gisela Flous, que le capitaine Cruel va lui parler d'une Gisela Flous à un moment, dans le journal d'une analyse, il va se demander si c'est pas elle, justement, et puis ce qu'il va écrire en 83 à Martha, c'est ce qui l'intéressait beaucoup. Il en est tombé amoureux. Il errait dans les bois quand il l'a rencontré à 16 ans. Pendant 10 ans, il s'adressait quasiment à aucune femme, à aucune fille. Après, il a rencontré Martha. Donc, ce qui va écrire à Martha, c'est que ce qu'il trouvait comme ça, sur un mode assez fantasmatique et assez important, c'est quoi? C'est la chevelure de cette fille et les yeux noirs. Donc, tout ça pour dire un peu que, évidemment, ça arrive pas dans n'importe quel contexte. Donc, ce que je voudrais, c'est partir de ce qui se passe à ce moment-là. Alors, si. Et ça va nous permettre un peu de revenir sur le savoir que propose Condorcet, même si c'est pas évident, puisque ce qui est en jeu avant le rêve, parce que la grande question c'est pourquoi il y a un rêve, évidemment, hein, pourquoi il y a un rêve et en quoi ce rêve introduit justement cette dimension de l'alliance, d'un pacte symbolique complètement autre, et en quoi ce pacte symbolique pourrait être une réponse à ce que j'ai, avec prudence, tout à l'heure introduit comme une effraction du réel dans le transfert. On n'a pas d'éléments pour arriver à tout dire, mais on peut penser quand même que la façon dont Freud exerce une pression sur son analysant va évidemment résonner d'une certaine façon chez l'analysant, donc chez Lerz, et que à partir de là, un jour, rencontrant une jeune fille, il va immédiatement être pris par ce qui lui est dit, d'une certaine façon, sur un mode imaginaire, mais que le rêve vient apporter complètement autre chose. Alors, qu'est-ce qui est en jeu au moment où Freud ne peut pas ne pas penser que c'est ça, comme on a vu la dernière fois avec Lucière, puisque c'est ça qui est important, c'est qu'avec Lucière, il apporte une interprétation, à savoir que finalement, si elle a des symptômes, c'est parce qu'elle est amoureuse du père des enfants qu'elle garde, c'est tout à fait ça, et je vous le rappelle, et ce qu'elle dit à ce moment-là, bien sûr, ça je le sais, et à ce moment-là, il lui répond, mais si vous le savez, pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit? Alors je voudrais dans ces moments-là, là, il n'y a pas de rêve, mais ce qu'on disait la dernière fois, c'est que au moment où elle lui dit j'y avais pensé, ou je le savais, je crois que c'est je le savais, enfin j'ai pas le texte exact, en fait, là n'est pas la question, est introduit à ce moment-là un moment, un temps qui est immédiatement recouvert par puisque vous le saviez, pourquoi vous me l'aviez pas dit, vous ne me l'avez pas dit. C'est ça notre question. C'est qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, Freud ne peut pas ne pas entendre autre chose, parce que finalement, ce qu'elle lui dit, d'une certaine façon, en lui disant ça, je le sais, elle lui dit d'une certaine façon, il y a un autre savoir que ce que je sais. Et Freud ne peut évidemment pas entendre ça. Alors, ce qu'on essaie d'interroger, c'est qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là, dans le transfert, qu'est-ce qui est recouvert, quel savoir élémentaire est mis en jeu, et on a comme perspective à l'autre bout ce que peut nous permettre d'aborder la façon dont Condorcet, à un moment, élabore quelque chose, hein, on en a parlé la dernière fois, cette esquisse d'un tableau historique, des progrès de l'esprit humain et le tableau qu'il offre au moment où il est découvert dans la prison, juste avant qu'il soit normalement conduit au tribunal révolutionnaire et conduit à la guillotine. On pourrait dire, je crois, quelque chose comme ça, que dans ce moment dont parle Freud avec Lucière, qui est immédiatement recouvert, on pourrait dire que tout l'enseignement de Lacan est là. Est recouvert. C'est-à-dire tout ce qui va développer du côté de l'objet, du côté du signifiant, du côté du signifiant comme effet de signifier, donc qui ne prend pas en compte la dimension du signifiant, du côté de ce qu'il va dire que Freud est du côté du sensé, voire du côté parfois de la censure, et qu'il y a donc une autre dimension qui est la dimension signifiante, du côté du S barré, du côté du grand S de grand barré, tout est là, mais tout est recouvert par immédiatement la pensée qui vient occulter ce qui est en jeu. Autrement dit, au moment où elle lui dit, où Lucière lui dit, ça je le sais déjà, on pourrait dire que s'ouvre une béance, ou que fait irruption un réel qui n'est pas, que moi j'arrive un peu à penser, parce qu'il faut arriver un peu à le penser, à partir de la façon dont Lacan propose, vous savez, la fonction de la hâte avec les trois prisonniers du temps logique. C'est-à-dire que au moment où elle lui dit ça, on pourrait dire qu'il est, en quelque sorte, dans la position d'objet petit a, il ne peut évidemment rien dire, c'est-à-dire il est en position d'objet A, non pas avec elle. Là, on serait encore dans l'intersubjectivité, comme quand on veut expliquer uniquement le temps logique à partir des trois noirs et des deux blancs, ou des deux blancs et des trois noirs, je ne sais plus. Il ne s'agit pas tellement de comprendre, il s'agit de voir un peu ce qui est en jeu et qui nous échappe complètement. Pensons aux lettres mathématiques. C'est ça dont on s'est approché. On pourrait dire que ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est que Freud, en position d'objet A, et vous savez que la position d'objet A, c'est ça l'apparition du discours analytique, hein, en position d'agent. Freud est en position d'objet A, est mis en position d'objet A, et il est sous le regard de l'autre, voire des autres. Il pourrait y avoir plusieurs autres, c'est pas le problème. Lucière a cette fonction, de la même façon que dans ce qui conduit à la sortie, dans la hâte, c'est le fait qu'à un moment, un des trois est sous le regard des deux autres, il maintient cette position, c'est pas tant qu'il voit le disque, qu'il voit qu'il est noir ou blanc et qu'il peut sortir, c'est que ça c'est l'élaboration de Lacan quand il en parlait, comme il le dit à la sortie de la guerre, mais progressivement quand il va reprendre ça dans son séminaire, ce qui est important pour lui, c'est cette structure où on est en position d'objet A, sous le regard. Alors, sous le regard de quoi? On va dire de l'autre, parce que c'est un peu rapide, mais ce n'est pas suffisant. Sous le regard de ce que Lacan va appeler dans le séminaire encore un assemblage. C'est-à-dire que, et là on est dans le savoir, qui n'a plus rien à voir avec tout ce qu'on peut penser. À ce moment-là, j'ai essayé de le faire un peu au tableau, mais on ne va pas bien, Il faut penser, moi je ne connais pas bien les mathématiques, mais Lacan dit que le début de la théorie des ensembles se caractérise par le fait que sont mis dans un ensemble des objets qui n'ont strictement rien à voir ensemble. C'est ça l'intérêt de la théorie des ensembles, c'est que l'ensemble, ce qu'il appelle le 1 à ce moment-là, permet de mettre ensemble, d'assembler, on pourrait dire adsembler, non pas ab, comme disait la dernière fois, c'est pas Abdou Tchéri, c'est adsembler, d'assembler quelque chose qui n'a rien à voir ensemble, a priori. Parce que si ça a à voir ensemble, c'est le narcissisme. Donc tout ce qu'on élabore, tout ce que j'ai essayé de dire par rapport à Freud, etc., on pourrait dire qu'on est dans un savoir narcissique, au sens où on est dans le même, on comprend, etc. Et toute la question serait dans le transfert, le moment où il y a cette irruption qui fait apparaître, pas du tout quelque chose qui vole en éclats, mais véritablement un assemblage. C'est-à-dire le fait qu'à ce moment-là, il y a des éléments hétérogènes qui peuvent être dans un ensemble. Ça, c'est la théorie des ensembles. Et je crois que c'est... Et dit-il, les lettres sont des assemblages. Autrement dit, la dimension de l'écrit, ce qui s'écrit, c'est pas l'écriture, ce qui s'écrit, c'est quelque chose qui a à voir avec la mise en assemblage, en adsemblage de quelque chose, d'éléments qui sont complètement hétérogènes. Ce serait ça, finalement, l'altérité. Donc, les mathématiques en tant que telles, et c'est l'hypothèse que je fais comme ça de façon assez gratuite, je pense que d'une façon ou d'une autre, c'est ça que Condorcet a rencontré dans les mathématiques. C'est ça qu'il a essayé d'élaborer par tout le travail qu'il a fait sur le calcul intégral et les probabilités. Son souci étant de savoir comment on pourrait faire pour que les élections soient les moins fausses possibles, c'est-à-dire qu'on arrive à ce qu'il y ait une représentation, Ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est important que les citoyens, puisqu'un citoyen c'est quoi pour lui, essentiellement, c'est parce qu'il n'est pas citoyen, parce que c'est marqué dans l'article de la Constitution, c'est parce qu'il a, un citoyen c'est quelqu'un qui peut recevoir ce savoir élémentaire pour tous. C'est pour ça que c'est un citoyen. Pour tous ceux, de, pour tous ceux qui appartiennent à la nation, d'où la dimension publique et d'instruction publique. Autrement dit, et j'en reviens à ce moment-là, avec Freud, ce que Freud, on ne va pas lui reprocher parce qu'il nous le transmet quand même, puisqu'on peut en parler, ce que Freud, par exemple, dans ce moment infinitésimal, ce que Freud ne peut pas recevoir, mais ce que malgré tout il n'est pas sans savoir, c'est ça qu'il nous transmet, c'est qu'il y a, ces assemblages, qui est ce que Lacan appelle « il y a de l'un ». L'un, c'est ça. C'est pas l'un du narcissisme. C'est l'un qui est l'assemblage. Il fait bien une différence entre... Il dit bien que l'un de, dont il parle, lui, il en trouve la trace, l'écrit, dans les mathématiques, dans la théorie des ensembles. Et donc, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on est dans une position où l'image spéculaire défaille, donc où on ne peut plus rester dans la dimension du spéculaire, on va dire du narcissisme, pour parler rapidement, eh bien, on est conduit à ce moment. Et donc, il est important que, dans le transfert, le psychanalyste puisse permettre que ce moment se déploie, se déroule, puisque c'est ça qui introduit à ce nouveau discours, qui est le discours analytique, qui est uniquement un changement de discours, l'apparition d'un discours. Après, c'est fini. C'est pas un discours sur la psychanalyse ou sur les éléments de la psychanalyse. Alors, je suppose donc que ce que Freud en 1908, rencontre avec l'homo ra, et ce que va passer Lacan en reprenant ce rêve, et il ne le dit pas n'importe où, Lacan, il le dit, vous savez, dans ce fameux discours de Rome, c'était quelque chose d'important, 53, dans la communauté analytique, il introduit là d'emblée quelque chose qui est, bien sûr, ce que j'évoquais la dernière fois dans cet article, à partir du Kränkung, cette mortification particulière, c'est-à-dire cette marque de la mort, de la disparition d'un savoir déjà là, pour qu'advienne autre chose. Et c'est écrit dans ce rêve par le biais de ce qui est présentifié et qui, bien sûr, dépasse ce qui est vu. Et même ce qui est, on pourrait dire, ce qui est entendu. Alors, comment est-ce que ces données, bien sûr, on ne va pas chercher une correspondance exacte, on va plutôt chercher une correspondance, comment ceci peut être déjà là, pour nous, si nous pouvons le trouver, dans ce qui arrive à ce philosophe particulier qui lui n'a évidemment aucune idée et de ça en tant que tel, hein, il ne sait pas du tout, à ce philosophe particulier, à ce révolutionnaire qui n'est pas véritablement révolutionnaire, parce que même si il va se lancer dans cette perspective révolutionnaire, on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est l'élaboration de la constitution, d'une nouvelle constitution, avec les éléments dont j'ai parlé. Une élaboration de réforme de l'instruction publique, hein, c'est ça vraiment qu'il apporte. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui peut nous laisser à partir de cette esquisse, hein, on peut aussi jouer un peu avec les mots, hein, le S de esquisse d'un tableau, et on retrouve les mots, le 1, d'un tableau, de ce tableau, c'est pas esquisse du tableau historique, c'est esquisse d'un tableau historique. Et puis il y a le mot esprit, qui apparaissent. C'est-à-dire que le titre en lui-même, on pourrait dire, est une bibliothèque. On peut, avec ce titre-là, titre qui, donc, qui va... Je vais vous dire ce que va devenir ce livre. Alors, il meurt le 29... Il est trouvé mort le 29 mars 1794. Le 3 avril 1995, donc il est mort, la Convention décrète, sur proposition de Donoux, l'achat et la distribution de 3000 exemplaires de l'esquisse. Entre-temps, sa femme a décidé la publication de l'esquisse. Et voilà ce qui est noté pour la diffusion de ce livre. C'est un livre classique offert à vos écoles républicaines par un philosophe infortuné. Pour montrer à quel point ça a été méconnu, et c'est finalement essentiellement à partir du bicentenaire de la Révolution en 1989-90, au moment où Condorcet va être ramené au Panthéon dans un cercueil vide, puisqu'on ne sait pas, du tout. Il a été mis à la fosse commune et on ne sait pas du tout où il était, mais enfin on l'a ramené avec deux autres, je ne sais plus qui. Bon, mais ce que je voudrais, c'est m'arrêter, et puis après on va pouvoir un peu parler, c'est m'arrêter sur ce que je trouve par rapport à quand même au poids des mots signifiants, je ne sais pas, mais enfin avec ce titre là, le tableau sur lequel le tableau qui nous laisse finalement. Avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que effectivement, avec ce qu'il laisse dans cette esquisse, avec ce qui s'est passé, ce que j'évoquais la dernière fois, à savoir que il était effectivement, quand il a commencé à se cacher, il était complètement préoccupé par essayer de se justifier. Il écrit fragments d'une justification. Il écrit ça pendant un mois. Il en écrit à peu près 30 pages. Et sa femme, Sophie, qu'il voit sans doute se détériorer complètement, parce qu'il doit sans doute être... Ça doit se voir sur son visage, sur son corps. Il est figé, il dort plus, etc. Il essaie de se justifier, mais se justifier devant quoi? C'est ça bien le problème. Parce qu'elle lui dit un jour, donc elle lui dit... Et j'évoquais une fiction la dernière fois en disant que peut-être bien que c'est dans sa voix qu'il a entendu quelque chose. Il lui dit que de toute façon, elle sait, elle, qu'il peut écrire quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il peut laisser tomber ça pour écrire autre chose. Et quand elle va publier le fragment d'une justification, au bas de la 30e page, et ça s'arrête là, elle écrit, Sophie Condorcet, elle écrit « Quitter à ma prière pour écrire l'esquisse du tableau historique qu'elle écrit. » Esquisse du tableau historique qu'elle écrit, pas esquisse d'un tableau historique. Alors, cette dimension de la prière, évidemment, m'intéresse beaucoup, parce que ce qui est assez curieux quand même, c'est que, vous savez que Condorcet... a passé 5 années chez les jésuites à Reims, et qu'il en a dit pas du bien de l'enseignement qu'il y trouvait. Il s'est jamais tellement non plus, on peut pas dire qu'il soit déployé véritablement contre, sauf à certains moments où il a même proposé un calendrier où chaque jour il y aurait un crime fait par le christianisme. Mais enfin bon, on peut pas dire qu'il a vraiment quand même. Il a jamais été excessif par rapport à ça. Or, hélas, je dis ça un peu par rapport au rêve qui m'est venu concernant Freud et l'Homora. Il est arrêté alors qu'il essaie d'échapper. Il est arrêté à Clamart. Et il va finalement, après, il se fait passer sous une fausse identité, Pierre Simon, et finalement on va découvrir que c'est les Condorcet, on le ramène dans la charrette, et c'est depuis la rigolade, 2 jours après, il doit normalement être guillotiné, il le sait, il faut passer devant le tribunal révolutionnaire parce que ça se passe comme ça, et la veille, donc le lendemain de son arrestation, alors qu'on lui a tout enlevé, qu'on lui a ce qu'il avait, hein, donc... le 29 mars à 14h, le concierge de la prison entre dans la cellule et le retrouve face, alors voilà ce qu'il écrit, face contre la terre, les bras allongés le long du corps. Pour ceux qui sont un peu au courant, on sait que face contre la terre, les mains allongées le long du corps, c'est la position du prêtre quand il est ordonné. Alors je ne fais pas, je ne dis pas que c'est ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que, alors là-dessus, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, bien sûr, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule question qui se pose pour ceux qui, pour les raisonneurs, hein, pour les, on va dire pour le semblant, c'est, est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'il a eu une apoplexie ? C'est pas ça tellement qui nous intéresse, c'est par rapport à ce que j'essaie de dire là, qu'il y a une apoplexie ou pas, c'est même pas le problème, c'est quel a été le dernier instant de cet homme qui se retrouve comme ça. Autrement dit, moi j'irais jusqu'à supposer que effectivement cette face contre terre, bien sûr c'est la rencontre avec quelque chose de l'ordre d'un réel, on va dire, hein, qu'on appelle ça Dieu ou qui on voudra, mais il me semble que ce qu'il transmet là, c'est quelque chose un peu du même ordre que cette signification du rêve dont parle Lacan. C'est-à-dire qu'il transmet l'importance d'une rencontre particulière qui retient le corps et qui, évidemment, ne peut être supposée que dans le cadre d'une alliance particulière. Alliance là qui est la mort, mais qui pose l'être parlant que nous sommes dans un rapport particulier au fait que, je dirais, c'est ça qui est au cœur de ce qui nous anime, c'est-à-dire qu'on pourrait dire d'une certaine façon que la vie, c'est la façon dont on peut danser avec la mort. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Je m'arrête un peu là-dessus.